Les archives d'Afrique, Alain Focard.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, parce qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je ne vous cache pas que le résultat de mon acte d'hier est profondément déconcerté. Je convoquerai la nouvelle assemblée, conformément à la loi, et je remettrai la démission de mon gouvernement.
Suite de ce magazine enregistré quelque temps avant la disparition du président Ignacy Gbé Yadema du Togo, le chef de l'État avait accepté de nous recevoir pour parler de son prédécesseur. Écarté du pouvoir par son beau-frère Sylvanus Olympio à l'issue d'un scrutin démocratique, replacé 5 ans plus tard à la tête de l'État togolais à la suite d'un coup d'État où il n'était pas du tout impliqué, Nicolas Gruninski aura réussi la performance très rare en Afrique de revenir au pouvoir après l'avoir perdu une première fois. Pourtant, ce second mandat ne va pas être de tout repos. Dans la première partie de cette émission, en 3 volets que nous lui consacrons, nous avons évoqué les grands moments de sa vie jusqu'au début des années 1963, année où il est appelé au pouvoir par l'armée. Dans cette seconde partie, le président de la République du Togo, son Excellence Ignacy Gbé Yadema, nous fait l'honneur de rester avec nous pour parler de ce leader qu'il a bien connu. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Notre second invité est le grand chancelier Haïti Mevdor, qui a combattu pendant un moment le président Gruninski. Merci d'être avec nous. Après avoir été éliminé du pouvoir à la régulière par son beau-frère Sylvanus Olympio, Nicolas Gruninski, qui a préféré se retirer de la chose politique, est appelé au pouvoir par un groupe de militaires inexpérimentés qui vient de renverser le président Olympio. L'armée et les constituants introduisent un bicéphalisme dans la vie togolaise. Leur but est de résoudre l'antagonisme nord-sud qui divise le pays. C'est pourquoi il confie la fonction de président à un homme du sud, Nicolas Gruninski, et celle de vice-président à un homme du nord, Antoine Meachi. Gruninski, qui à ce moment-là ne bénéficie pas encore de la légitimité populaire, va passer par les urnes en mai 1963. Ces élections, qui ont pour but d'entériner la Constitution et les dispositions qui font de lui le président, vont être un véritable plébiscite. Nicolas Gruninski peut désormais gouverner puisque son pouvoir s'appuie sur le peuple. Il souhaite alors redonner au Togo certaines libertés qui avaient été supprimées dans le règne précédent, notamment le droit syndical. Pourtant, les choses ne sont pas aussi faciles. Les syndicats qui se mettent en place deviennent en réalité des mouvements politiques qui contestent son pouvoir. La première alerte surgit en 1964. Nicolas Gruninski, qui craint des incidents provoqués par des syndicalistes, va décider la dispersion du défilé du 1er mai 1964. Mais cette mini-crise est presque insignifiante par rapport à celle qui va éclater en novembre 1966. En réalité, ce bicéphalisme que l'on avait adopté 3 ans plus tôt comme solution aux antagonismes nord-sud va s'avérer très mauvais pour la stabilité du pays. Antoine Meachi veut devenir calife à la place du calife. Le poste de vice-président ne lui sied pas. Alors, c'est l'opposition entre les deux chefs de l'exécutif. Monsieur le Président Yadema, vous qui étiez très proche du président Gruninski et de son vice-président Meachi, dites-nous, qu'est-ce qui opposait réellement les deux hommes? Était-ce seulement l'ambition politique ou il y avait autre chose?
Le président Gruninski, c'est un homme que le peuple aimait. Il a été élu le 5 mai 1963 au suffrage universel, en même temps que son vice-président Meachi. Le peuple lui a confié mandat de 5 ans. Mais l'autre, le vice-président Meachi, voulait renverser le président de la République. Et moi-même, avec un certain nombre d'officiers, nous sommes intervenus auprès de M. Antoine Meachi en lui disant, chacun a son rôle. Le peuple s'est prononcé. Le président Gruninski est président. Il a son rôle. Vous, vous êtes, n'est-ce pas, vice-président. Vous avez le vôtre. Donc, il faut le servir loyalement. Jouer votre rôle, ne pas essayer de le renverser. Personne ne sera d'accord avec vous. Mais il voulait absolument un coup de force.
«
souvent que celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. Bon, donc, quand l'opposition a vu que le vice-président était avide de pouvoir, ils l'ont trompé. Ils sont partis le voir en disant, non, si c'est toi qui étais notre président, nous devons, n'est-ce pas, vous suivre. Mais, parce que le président Gonzalski, nous ne voulons pas de lui parce qu'il est citoyen français. Si c'est toi, il n'y a pas de problème. Toi, tu es un fils authentique. Nous allons, n'est-ce pas, vous suivre. Eh bien, il a accepté, comme il ne voulait que ça. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que s'il n'y a pas un traître dans le foyer, le sorcier du dehors ne peut jamais vous atteindre. Donc l'opposition a passé par Mnyachi, qui était considéré comme le traître de Gruski. L'opposition, n'est-ce pas, s'est mise à l'œuvre pour travailler activement pour renverser Gruski en passant par Mnyachi, avec Mnyachi. Mnyachi, lui, croyait que l'opposition était sincère pour le soutenir au pouvoir, mais c'était pour le tromper seulement. Bon. Et de temps en temps, l'opposition envoyait, ils avaient leur état-major général à part, que Brecht n'avait pas l'accès. Et de temps en temps, ils envoyaient, n'est-ce pas, des personnes pour voir bien qui, en disant, le président, sont venus recevoir des instructions. Lui, il a cru qu'effectivement, les gens, n'est-ce pas, voulaient que ce soit lui qui remplace M. Nicolas Gruski. Hélas, il le trompait. Moi-même, je suis allé. Sa femme est encore là. Il est mort. Je lui dis que non. Si vous ne faites pas attention, vous allez créer une guerre civile dans ce pays. Donc, il faut absolument rester, n'est-ce pas, dans la ligne que le peuple vous a tracée avec le président Gruski jusqu'à 5 ans. Après 5 ans, si vous voulez le pouvoir, présentez-vous comme candidat à la présidence. Mais actuellement, ce que vous êtes en train de faire, vous risquez, n'est-ce pas, de créer une guerre civile. Mais j'ai exigé à ce que Mme Mnyachi soit présente. Quand j'ai fini, il m'a dit tout simplement, je vous ai attendu, je vous remercie. Et j'attendais que Mme, sa femme, dise mot, rien. Bon, Mnyachi a commencé à travailler avec l'opposition.
Monsieur le chancelier Mevidor, vous étiez plutôt pro-Mnyachi. Que reprochiez-vous exactement à Gruniski?
D'abord, on disait qu'il n'était pas nationaliste, puisque c'est les nationalistes qui étaient au pouvoir et qui ont été renversés par l'armée. On reprochait à Gruniski d'être sous l'autorité, bien sous des Français. Voilà. C'est surtout sa tendance et ses accointances avec les Français qui faisaient que la population, en ce moment-là, nationaliste, n'acceptait plus Gruski.
La crise éclate véritablement le 17 novembre 1966. Alors que le président Gruniski est en voyage en France, le vice-président Mnyachi utilise l'article 24 de la Constitution qui lui donne les pleins pouvoirs en cas d'absence du président pour révoquer le dauphin supposé du président, Mama Fousseni, le ministre de l'Intérieur, dont les enquêtes tendaient à soupçonner Antoine Mnyachi d'être le principal instigateur des tracts qui circulaient à Lomé. Pour manifester leur soutien à Fousseni, deux autres ministres du gouvernement vont démissionner. Grunitzky, qui ne peut sanctionner Meachi puisqu'il est lui aussi une personne constitutionnelle, fait adopter un amendement tendant à supprimer le poste de vice-président. C'est la crise ouverte. Monsieur le Président Yadema, vous qui avez vécu cette crise de l'intérieur, puisque vous étiez le chef d'état-major de l'armée et que vous avez régulièrement rencontré les deux antagonistes pendant cette période de tension, racontez-nous un peu ce qui se passait vraiment. Quelles étaient les armes et les enjeux?
Meachi voulait absolument obtenir une crise. Il a passé par un certain nombre de ministres, deux ministres précisément, à démissionner du gouvernement de Nicolas Grunitzky pour ouvrir une crise. Parce que lui, étant élu, n'est-ce pas, sur la même liste constitutionnelle que le président Grunitzky, donc il ne peut pas se retirer. Ces deux ministres avaient effectivement rendu leur démission. Le président Grunitzky m'a appelé. Il me dit que voilà, il y a deux ministres qui ont donné leur démission. Et lui, il a précipité les événements. Comme il n'avait pas son vice-président, qui depuis là a pris ses distances. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué un conseil ministériel extraordinaire où il a démis tout le monde par décret présidentiel. Il a dissous le gouvernement en vue de réformer, n'est-ce pas, un autre gouvernement. L'opposition a profité de ce vide à élire, puisqu'ils savaient qu'ils vont prendre le pouvoir, mais qui sera président. Donc ils ont organisé, n'est-ce pas, entre eux les cadres de l'opposition pour désigner, n'est-ce pas, celui qui va remplacer Nicolas Grunitzky lorsqu'ils vont prendre des forces de pouvoir. Et c'est le chancelier, le grand chancelier actuel, M. Gaston Mouviador, qui a été élu lundi 21 novembre 1906. Eh bien, Mouviador est monté au micro, ils ont pris le pouvoir. C'est cette proclamation de prise de pouvoir qui a réveillé, n'est-ce pas, les Togolais.
Le 21 novembre 1966, une vingtaine de partisans du Parti Unifié Togolais, le PUT, dont vous faites partie, monsieur le chancelier, avec Noé Koutoukli et Oswald Adjavon, s'emparent des locaux de la radio nationale. Et comme le disait il y a un instant le président Yadema, c'est vous, monsieur Mouviador, qui lisez la déclaration qui va réveiller les Togolais ce matin-là. Quel en était le contenu exactement?
La déclaration qui a été faite le 21 novembre au matin à la radio était d'abord une déclaration pour alerter les militants du CUT de descendre dans les rues pour la manifestation. Les militants avaient exigé qu'on leur donne un signe pour qu'ils puissent descendre dans les rues pour ces affaires. Évidemment, le contenu de la déclaration condamnait Grunitzky et condamnait le régime de Grunitzky, sans parler de Meachi et tout ça là, mais comme les préparatifs pour la manifestation étaient faits en partie avec Meachi, donc on n'a pas voulu égratigner Meachi dans cette affaire.
Mais mon chancelier, pourquoi est-ce vous qu'on a élu pour prendre les rênes du pouvoir? Que reprochiez-vous finalement à Meachi que vous sembliez pourtant soutenir et utiliser jusque-là?
Meachi estimait que les gens qui ont fait le coup d'État, c'est-à-dire la partie de l'armée, est beaucoup plus proche de lui que de Grunitzky. Et il faut dire qu'au sein de l'armée aussi, il y avait une tendance, la tendance Beaujolais, qui appuyait Meachi au lieu d'appuyer Grunitzky. Et c'est la tendance Yadema qui appuyait Grunitzky. Là aussi, il faut comprendre que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que les francophones et autres là étaient plus poussés vers Grunitzky qu'avec Meachi. Et Meachi, dans notre région, dans notre sein, est un homme violent. très violent et les gens ne voulaient pas de lui comme président.
Ce jour-là, près de 5000 manifestants vont descendre dans les rues en scandant des slogans hostiles à Gruevski. Les mutins vont assurer la population qu'ils ont l'appui de l'armée. Monsieur le Président, il a été très souvent dit et écrit à ce propos qu'au début de cette mutinerie, l'armée dont vous étiez le chef d'état-major soutenait ce coup d'état. Et que ce n'est qu'après votre ultime rencontre avec le président Gruevski que vous avez changé de position. Que répondez-vous à cela? L'armée était-elle au courant? L'armée soutenait-elle au départ ce groupe de mutins? Si oui, pourquoi finalement a-t-elle changé d'avis?
Nous ne sommes pas au courant. Personne n'est au courant. Il dit que l'armée est avec eux. Mais en tant que chef d'état-major, personne n'avait pris contact avec moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réagi. Nous avons pris, n'est-ce pas, nous avons occupé les points stratégiques, et y compris la radio. On a pris la bande et on l'a amenée. Et au même moment, les gens sont descendus dans la rue en chantant, demandant au président Gruevski de démissionner. Alors, quand j'ai pris toutes les dispositions en tant que chef d'état-major, j'ai mis, n'est-ce pas, l'armée en alerte et je suis allé avec deux personnes pour voir le président Gruevski, qui sa maison était encerclée par les manifestants, en lui demandant de démissionner. Et je dis, bon, il n'a qu'à faire une déclaration, parce que nous, l'armée est pour la légalité. Il n'a qu'à faire une déclaration pour dire qu'il avait la situation en main. C'est ce qu'il a fait. Et pendant ce temps, il y avait les émeutes, les gens s'entretuaient au marché. C'était, n'est-ce pas, une division nord-sud, l'est-l'ouest, etc. Donc il a fait la déclaration. Et après, nous avons reçu l'ordre de lui de faire disperser. Parce que là, l'armée n'était pas intervenue, l'armée était consignée, n'est-ce pas, dans ses casernes. Et donc, lorsque nous avons reçu l'ordre de faire disperser les gens, c'est ce que nous avons fait. Nous avons exécuté l'ordre, on a dispersé les gens, tout est rentré dans l'ordre, et lui l'a imposé le couvre-feu.
Une fois le coup d'état repoussé, le président Gruevski va donc s'adresser à la population togolaise. Voici son interview quelques jours plus tard. Là encore, il refuse de parler de sa discorde profonde avec son vice-président.
Monsieur le Président, quelle signification pouvez-vous donner aux manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui à Lomé?
Il n'y a pas d'autre signification que de dire que ces manifestations résultent des menées subversives de certains adversaires politiques. C'est un complot ourdi pendant que je me trouvais en Europe pendant 3 semaines. Ce sont ceux qui se disent révolutionnaires, intransigeants, qui ne veulent pas participer à la politique d'union et de réconciliation nationale. Ce sont les fauteurs de troubles qui ont mené l'action. Vous avez pu constater vous-même qu'en moins de quelques heures, le calme est revenu.
Monsieur le Président, une crise ouverte entre le vice-président M. Meyati et le ministre de l'Intérieur M. Mafoussé Nimama a été évoqué par vous-même dans votre allocution radiodiffusée de dimanche dernier. Pouvez-vous nous donner quelques éclaircissements sur ce différend?
En effet, il y a eu un malentendu fâcheux entre le vice-président, M. Meyachi, et le ministre de l'Intérieur, M. Mafousseni. Mais cela arrive un peu partout. Même dans un corps, eh bien, il y a des organismes qui ne sont pas toujours en harmonie.
Mais si ce coup d'État est écarté et si, selon toute vraisemblance, Nicolas Gruevski bénéficie d'un certain appui de l'armée, la crise n'est pas pour autant désamorcée. Le pouvoir reste très très fragile et les heures qui vont suivre vont être très difficiles à vivre pour lui. Nous en parlerons dans la troisième et dernière partie de cette émission, la semaine prochaine, à la même heure.